Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G. Toute l'équipe du Plantier est ravie de vous retrouver dans sa nouvelle émission consacrée cette fois à la belle messicole, le bleuet. Une espèce très présente dans notre imaginaire et malheureusement bien menacée. Aujourd'hui, j'ai bravé cet été débutant et torride. Pour venir enregistrer cette émission, je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et j'ai le plaisir de vous accompagner durant la prochaine demi-heure pour partir à la rencontre de cette ravissante plante à la floraison bleue intense et gracieuse. Car comme tous les vendredis pair à 13h, le tiers-lieu Le Plantier vous invite à partir en nature, à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages, des plantes sauvages. Pour m'accompagner dans cette émission, nous écouterons Arcandia dans sa chronique « Jardiner avec les plantes » pour vous aider à sublimer les plantes de votre jardin et Marie pour apprendre une nouvelle recette avec le bleuet. Enfin, nous aurons le plaisir d'écouter l'interview de Marie Fortin, notre chroniqueuse hydrobiologiste dans laquelle nous parlerons inondations et ressources en eau. Un programme riche pour bien commencer l'été. Restez bien à l'écoute sur Radio G 101.5 FM. Cette émission sera accompagnée par le chant sec et sonore du verdier, un passereau d'une quinzaine de centimètres au plumage vert olive très reconnaissable. Peu farouche et grand amateur de graines, le verdier au comportement grégaire et social se plaît en compagnie d'autres oiseaux et apprécie aussi notre espèce. Hormis nos habitations, le verdier vit dans des habitats très variés, allant des lisières aux clairières, des haies aux prairies, sans oublier bien sûr les champs de céréales. C'est donc bien accompagné que nous allons à la rencontre du bleuet, amateur lui aussi de champs de blé. Je vous propose de débuter en poésie avec Louis Fontas, poète du XXe siècle. Élégant est le nom de cette fleur des champs. Sa couleur est séduisante un peintre magicien, possédant le doigté d'un brillant musicien qui sut ornementer les livres de plein champ. On admire de près sa belle inflorescence, excellemment classée parmi les centaurées, côtoyant les épis et leurs têtes dorées, d'un blé appesanti par son efflorescence. Et cette fleur d'azur dite « fleur du centaure » expose dès que lui, la souriante aurore, à nos regards charmés son bleu digne d'honneur. Son capitule a la particularité d'être un faisceau compact de fleurs porte-bonheur, symbole bien vivant de solidarité. Le bleuet doit sa réputation et sa reconnaissance à ses fleurs bleues violacées, découpées et dentelées. Aujourd'hui en voie de disparition, avec l'intensification des grandes cultures et l'usage des herbicides, j'en garde un souvenir d'enfance tenace, dont des dessins appliqués témoignent encore aujourd'hui la fervente admiration. Avec la fleur de coquelicot, c'est une des fleurs des champs dont on se confectionne des bouquets en compagnie des marguerites et autres plantes des moissons. Quelle vision que ces cultures ponctuées de ces floraisons! Plante annuelle qui se ressème tous les ans, le bleuet se contente aujourd'hui des terrains de friche et des bas-côtés de routes épargnés par les fauchages précoces, car sa floraison s'étale de mai à juillet. Haute de 60 cm, elle hisse ses inflorescences parmi les épis grâce à ses tiges au feuillage gracile vert argenté. Le bleuet étant homophile, la fécondation de ses fleurs nécessite l'assistance des insectes pour former ses akènes, poilus, qui seront disséminés par le vent et les animaux. Ses propriétés ont ainsi donné naissance à de surprenants surnoms comme blavé, barbeau ou obifoin. Si vous avez la chance d'en voir naturellement, surtout laissez-le et offrez-lui la chance de se disséminer à nouveau. De nos jours, la façon la plus simple est de se procurer ses graines et de le semer entre mars et mai, soit directement en le mélangeant au préalable avec du sable ou du terreau. Certains jardiniers préfèrent les semer en godets pour les planter une vingtaine de jours après la germination. Pour garantir la réussite, préférez les expositions ensoleillées. De cette façon, vous pourrez donner un côté ensauvagé à votre jardin en laissant d'autres annuelles sauvages, y compris les graminées, les accompagner et sublimer vos massifs. En parlant de massifs, nous allons laisser la parole à Arcandia, qui va partager avec nous son art de sublimer les plantes de son jardin dans une version un peu plus longue que d'ordinaire, mais vous lui pardonnerez volontiers en écoutant sa passionnante chronique.
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Bonjour à tous. Dans cette dernière chronique, je vais vous parler de comment sublimer les plantes sauvages. Comment faire en sorte que ce jardin, composé à la fois de cultivars, de plantes nourricières et maintenant aussi de plantes sauvages, va pouvoir évoluer dans le temps. Pour bien comprendre comment stabiliser, comment conserver l'esthétique de son jardin, il faut juste rappeler le cycle de croissance d'une plante. Ici en France, nous avons 4 saisons et là nous approchons du moment le plus important de l'année pour le cycle végétal, c'est le solstice d'été. À la sortie de l'hiver, le rayonnement solaire augmente, les journées rallongent et les plantes lancent leur croissance qui va se jouer sur un temps très court, d'autant plus si l'été est sec. Plus le soleil monte dans le ciel, plus les plantes poussent vers le haut jusqu'au solstice d'été où toute la végétation aura atteint son maximum. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment faire pour tirer parti de ces cycles, pour aller avec ces cycles. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement dans un jardin au moment du solstice d'été ? Vous avez toutes vos vivaces annuelles qui ont poussé au maximum et toutes les petites plantes de printemps vont revenir à la terre. Donc elles vont tout simplement mourir et vont laisser derrière elles un décor qui peut chagriner les jardiniers les plus exigeants qui souhaiterait garder un jardin très vert et vivant. Et pour autant, je vous en ai déjà parlé dans ma première chronique, la mort, les végétaux morts en particulier, sont extrêmement importants pour la biodiversité de votre jardin. Ce que je recherche au jardin des Arcans, c'est trouver cet équilibre entre laisser une partie de cette végétation mourir et ne pas la détruire, laisser les tiges mortes sur place pour qu'elles puissent nourrir tout un tas d'animaux, d'insectes et de champignons. Mais en même temps, pouvoir stabiliser toute cette végétation qui va avoir tendance à s'affaisser, à s'écrouler, à créer un chaos visuel qui peut malmener l'esthétique de votre jardin ou en tout cas ce que vous en attendez. À l'heure où je vous parle, un orage vient de tomber. J'avais des beaux volumes sur mes massifs. Je réfléchissais depuis plusieurs jours. Est-ce que je rabats pour stabiliser ? Parce qu'évidemment, plus ma plante est haute et volubile, plus elle va être sujet à s'écrouler à la moindre averse ou à la moindre tempête. Ou est-ce que je prends le risque de laisser mes végétaux à cette hauteur et du coup, forcément, au premier gros orage, tout le monde va tomber par terre. Et j'observe cette année que j'ai beaucoup de gaillets dans mes jardins. Alors esthétiquement, il peut poser un problème. Sur le côté envahissant, je ne dirais pas qu'il est un réel problème. Les plantes se satisfont plutôt bien de son ombre légère. Et j'observe qu'il est un merveilleux stabilisateur, c'est-à-dire qu'il va monter sur la végétation. En fait, il va former comme une cage végétale au-dessus de ces plantes très très hautes. Et j'observe après l'orage qu'effectivement les massifs où le gaillet est très présent n'ont pas bougé. Donc vous avez des plantes comme ça qui peuvent être une première aide pour stabiliser la végétation et faire en sorte qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne s'affaisse pas et qu'elle reste visuellement intéressante. Mais sinon, j'utilise depuis quelques années un outil qui est absolument merveilleux, qui demande très peu d'efforts, c'est la faucille. Et en fait, avec votre faucille, vous allez passer au-dessus de vos massifs et venir le densifier, c'est-à-dire essayer d'observer dans le massif où se trouvent les volumes, où se trouve la densité, et vous allez couper tout ce qui dépasse cette densité. Les plantes vont évidemment se réitérer, repousser, et ensuite, comme vous avez descendu le niveau, elles vont évidemment plus pouvoir faire des poussées de croissance comme elles l'ont fait jusqu'à maintenant. Donc vous aurez uniquement des petites croissances. Les floraisons vont repartir évidemment, mais elles vont repartir plus basses. Et ça, le côté plus bas, ça va être intéressant pour avoir des massifs qui vont être moins sujets à l'écroulement, au moindre orage, lorsque les plantes tout simplement meurent et deviennent plus fragiles. Et vous allez avoir des massifs beaucoup plus solides. Ensuite, j'utilise un autre savoir-faire qui me permet de stabiliser mes végétaux autrement. C'est le tressage. Donc, toute personne qui a déjà fait une natte peut commencer à deviner de quoi je parle, notamment les nattes indiennes, vous savez, là on prend les cheveux au fur et à mesure et ils viennent s'ajouter dans la natte. Eh bien, pour des endroits où j'ai besoin de sublimer le décor, de créer une structure qui va être visuellement assez forte, qui va apporter aux visiteurs ou aux habitants qui passent par là un décor surprenant, agréable et sublimant la végétation un petit peu chaotique et sauvage qui anime les jardins. Je vais observer la forme de la zone que j'ai envie de modifier. Ensuite, je vais faire des raies à l'intérieur. Vous savez, comme quand on se coiffe, on a tendance à utiliser un peigne, on forme une raie dans nos cheveux pour mieux pouvoir maîtriser la coiffure ensuite. C'est pareil donc avec cette masse végétale, je vais dessiner des raies dedans qui va être mon premier motif. Je suis la densité naturelle des massifs pour créer ces tressages. Et une fois que j'ai fait mes raies d'une largeur de 20-30 cm, je vais commencer à tresser les végétaux. Comme une natte indienne, je commence au départ, je prends deux touffes d'herbe que je torsade sur elle-même, puis je torsade ces deux touffes d'herbe sur elle-même. Et je continue de torsader l'une sur l'autre et l'une sur l'autre. Et au fur et à mesure, j'attrape les nouveaux brins qui se présentent à moi. Et je vais créer comme ça un décor tressé. Alors, travailler en frais, c'est bien plus simple. Si vous attendez que les plantes sont déjà en fin de cycle, elles vont être sèches et du coup plus cassantes, surtout s'il n'y a pas plu. Donc, c'est mieux de le faire quand les herbes sont encore bien vertes et fraîches. Et là, vous allez obtenir une structure qui peut repousser sur elle-même. En particulier, je tresse beaucoup l'ortie, qui repousse en fait dans cette structure, puisqu'il n'est pas cassé, hein, j'ai simplement torsadé. Et tout au long de la saison, je suis ma ligne de tressage, je retaille, et là, il se passe quelque chose de merveilleux que font les plantes, c'est la réitération. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous taillez, les têtes se multiplient. Et dans le cas de l'ortie, ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il ne souffre pas de la sécheresse. Donc, plus vous le taillez sur ce tressage, plus il va se réitérer, donc plus il va faire de petites têtes, et il restera très vert. Donc, ça vous assure de garder de la fraîcheur, de la verdure dans le jardin, en sculptant les orties en particulier. Alors, attention, veillez, moi je travaille avec un caouet, un imperméable, quand je fais ça, et des gants, parce que si on fait ça à bras nus, c'est évident que vous allez avoir de sacrées piqûres. C'est un exercice qui est très intéressant parce que c'est un exercice de lenteur, c'est un exercice qui nous permet d'être dans notre jardin en silence. C'est aussi l'intérêt de la faucille, ce sont des outils qui sont silencieux, qui nous permet de vraiment voir de près, de porter une attention à chaque tige, peut-être de découvrir des œufs, de découvrir des insectes qui s'abritent. Et là, vous découvrirez, si vous avez le courage de tresser les orties, qu'il mérite bien sa réputation, puisque c'est incroyable la quantité d'insectes et la diversité d'animaux qui vivent autour et sur l'ortie. Et ces structures ont l'avantage qu'elles vont pouvoir tenir une année au minimum. Du coup, quand toute la végétation arrivera vers l'hiver, retournera vers le sol, vous garderez dans votre jardin ces motifs que vous avez créés. Et comme on a torsadé des plantes les unes sur les autres, on a formé tout un tas de petits entrelacs de végétaux dans lesquels les insectes vont pouvoir hiberner, vont pouvoir se cacher, se loger durant l'hiver. Donc ça remplace un petit peu les tiges creuses. Donc pour ceux pour qui il est totalement inacceptable de laisser des tiges mortes dans leur jardin, bah c'est une option qui vous permet d'avoir des végétaux séchés sur pied, mais sculptés de façon esthétique. Voilà un petit peu pour ces deux outils qui sont pour moi les outils clés de la gestion d'un jardin naturel. C'est-à-dire vraiment comprendre comment fonctionne la densité de vos massifs, observer votre jardin, voir à quel moment cette densité va s'étioler, va devenir fragile, Donc ça vous donnera un repère sur quand agir, parce qu'évidemment, il faut le faire avant. Hein. Une fois que ça a fessé, c'est beaucoup plus difficile de rattraper un massif. Ensuite, densifier en rabattant les végétaux qui seraient trop hauts et qui, du coup, vont être sujets à l'affaissement. Et cette deuxième technique de tressage des végétaux, qui est une technique artistique. Elle est très vertueuse et je trouve que dans le cadre d'un jardin naturel, elle sublime vraiment très bien ce petit chaos végétal que les regards non habitués ont du mal à trouver beau. Voilà pour cette dernière chronique de l'année. J'espère que toutes les chroniqueuses et moi-même, nous avons ouvert en vous des questionnements, des curiosités, qu'on vous a donné envie d'aller dans la nature, dans vos jardins, de vivre avec toutes ces plantes qui nous entourent, qui ne demandent rien à personne pour pousser et qui nous nourrissent aussi bien le corps que l'esprit. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, retrouvez-moi au Jardin des Arcans, à Nioiseau, proche de Segré, à 45 minutes d'Angers, où je pourrai vous faire découvrir tout ça en pratique. Très belle saison à tous!
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Avant de poursuivre en chanson, je voulais partager avec vous une anecdote campagnarde racontée par un expert des services de la protection des végétaux lors d'un des cours assurés dans le cadre de ma formation scientifique universitaire dédiée aux productions végétales à Angers. Son récit visait à témoigner de la vigueur des semences des plantes missicoles. À l'époque, agriculteurs et meuniers se côtoyaient facilement, si bien qu'un certain paysan eut le bon goût de séduire la femme du meunier. Ayant découvert cette infidélité et vexé, ce dernier collecta et rassembla consciencieusement dans un sac les semences des fleurs des champs qu'il récupérait lors du tri des graines de blé avant de le moudre. Puis il les mélangea avec les graines à semer pour l'année suivante. Imaginez la surprise de l'agriculteur séducteur lorsqu'il découvrit son champ couvert de bleuets, coquelicots, nielles, nigelles, silènes, chrysanthèmes des blés et autres beautés oubliées. J'ai adoré cette histoire. Et ce témoignage m'a convaincue à l'époque qu'une bonne histoire marque pour longtemps et qu'il s'agit d'un excellent moyen de transmission. Allez, je vous offre une pause en chanson avec Théophilo, chanteur du Cap-Vert, et son titre « Bleuet dans les blés » pour partager cette vision de la terre comme un village.
Il y a de l'eau salée dans les yeux des passants, de vieilles branches d'olivier sur les buffets grinçants, des squares et des allées, de longs boulevards glissants, vers des golfes argentés sur des rochers cassants. Il y a des bleuets dans les blés et des boutons d'or sur ta robe qui brillent dans mon regard troublé chaque soir quand tu te dérobes. Il y a des bleuets dans les blés et des pensées des immortels qui dansent leur danse endiablée quand ton corps et le mien s'emmêlent. Il y a de vieilles fontaines qui débordent de savoir, pleines de pièces anciennes, noyées de vœux d'espoir. Assis devant la porte, les vieux laissent filer le temps et son escorte, les visages exilés. Il y a des bleuets dans les blés et des boutons d'or sur ta robe qui brille dans mon regard troublé chaque soir quand tu te dérobes. Il y a des bleuets dans les blés et des pensées des immortels qui dansent leur danse endiablée quand ton corps et le mien s'en mêlent. Des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés. Il y a des reflets d'or et des ombres en dentelle sur l'amour qui s'endort dans les chambres d'hôtel. Chaque heure est un clin d'œil au roman de la vie qui se mange en mille feuilles, se boit cul sec aussi. Il y a des bleuets dans les blés et des boutons d'or sur ta robe qui brillent dans mon regard troublé. Chaque soir quand tu te dérobes, il y a des bleuets dans les blés et des pensées des immortels qui dansent leur danse au diablé. Quand ton corps et le mien sont mêlés, des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés, il y a des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés, il y a des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés, des bleuets dans les blés.
Vous êtes dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G sur 101.5 FM, et nous partons à la découverte du bleuet ou Centaurea cyanus. Centaurea est un nom dédié au centaure Chiron, qui, selon Ovide, aurait utilisé les propriétés médicinales d'une centaurée pour tenter de se soigner alors qu'il était blessé par une flèche empoisonnée d'Héraclès. Le centaure Chiron est le fils du dieu Cronos qui, pour cacher son infidélité, se transforma en cheval pour s'unir à l'océanide Phinira. De cette éteinte naîtra l'immortel Chiron, devenu célèbre pour ses talents de guérisseur, de chasseur, de prophète, de musicien et de gymnaste, grâce à l'éducation d'Apollon et d'Artémis. Il eut pour disciple Héraclès lui-même, à qui il enseigna l'astronomie, et le dieu Asclépios, à qui il enseigna le secret des plantes. Il est aussi connu pour avoir été le précepteur d'Achille. Le bleuet, à l'instar d'autres fleurs mycicoles traquées par les herbicides contemporains actuels, n'a jamais été considéré comme nuisible. Bien au contraire, il apporte une aide précieuse de par ses pouvoirs médicinaux. Ainsi, les centaurées, outre leur effet cicatrisant, possèdent des vertus apéritives très intéressantes. Elles sont donc très facilement cultivées dans les jardins de simples. Sainte Hildegarde et abbesse de Bingen témoignent au XIIe siècle des propriétés curatives du bleuet. La théorie des signatures, qui voyait des similitudes entre la forme des végétaux et leur effet, considère que la couleur de la fleur du bleuet évoque celle d'yeux clairs en bonne santé, ce qui a conduit à son usage pour les soins oculaires et son surnom amusant de casse-lunette. Le célèbre médecin du XVIe siècle Mathiolet employait le bleuet dans ce sens. À cette époque, les fleurs s'utilisent aussi en cuisine pour leur beauté et leur saveur piquante et amère. C'est l'occasion toute trouvée de laisser la parole à Marie pour sa chronique culinaire « Enherbez-vous ».
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, nous allons utiliser le bleuet comme fleur décorative pour sublimer nos desserts et nos salades estivales. En cette période estivale, je vous propose deux recettes fraîcheur, légères et colorées, qui mettront cette jolie fleur à l'honneur. Alors, c'est parti! Dans un premier temps, je vous propose de réaliser la recette de la crème glacée aux framboises. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 500 g de framboises, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 20 cl de crème liquide. C'est parti pour la recette. Triez les framboises et réservez-en quelques-unes pour la décoration. Conservez-les au réfrigérateur dans un bol couvert. Placez le reste des framboises au congélateur pendant une nuit. Réservez également la crème liquide au réfrigérateur afin qu'elle soit bien froide. Au moment de servir, mettez dans un mixeur les framboises congelées, le sucre glace et la crème liquide. Mixez jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et onctueuse. Répartissez aussitôt la crème glacée dans des verres ou des coupes. Décorez avec les framboises réservées. Puis parsemez délicatement quelques fleurs de bleu et sur le dessus. Servez immédiatement et dégustez bien frais. Pour notre deuxième recette, je vous propose des galettes roulées au pesto d'ortie. Le temps de préparation, vous aurez besoin de 30 minutes. 1 heure de repos pour la pâte et la cuisson 20 à 30 minutes. Pour 4 personnes, pour les galettes, 125 g de farine de sarrasin, 350 ml d'eau, du sel et du poivre, un peu d'huile d'olive pour la cuisson. Pour le pesto d'ortie, vous aurez besoin de 100 g de pointe d'ortie, 70 ml d'huile d'olive, 8 cuillères à soupe de fromage blanc égoutté, 2 cuillères à soupe de poudre de noisette, une gousse d'ail, du sel et du poivre. C'est parti pour la préparation. Dans un saladier, vous allez mélanger la farine de sarrasin, l'eau, le sel et le poivre jusqu'à obtenir une pâte homogène. Laissez-la reposer pendant une heure. Faites ensuite cuire 4 grandes galettes dans une crêpière légèrement huilée et réservez-les. Lavez et essorez soigneusement les pointes d'ortie. Mixez-les avec l'huile d'olive, la poudre de noisette et la gousse d'ail dans un blender ou un robot hachoir jusqu'à obtenir une préparation homogène. Étalez une fine couche de fromage blanc sur chaque galette, puis recouvrez-la d'une couche de pesto d'ortie. Roulez délicatement les galettes et maintenez-les à l'aide d'un pic en bois. Procédez de la même manière pour les 3 autres galettes. Coupez ensuite chaque rouleau en tronçons à la manière des maquis et disposez-les sur un plat de service. Vous pouvez les décorer de quelques fleurs de bleuet pour une présentation élégante et estivale. Si vous souhaitez les préparer à l'avance, enveloppez-les dans un film alimentaire en les serrant légèrement, puis conservez-les au réfrigérateur pendant quelques heures. Je vous souhaite un bel appétit à toutes et à tous et je vous souhaite un très bel été. À bientôt!
Malgré sa rareté à l'état spontané dans nos paysages, le bleuet possède de nombreuses propriétés thérapeutiques. Autrefois utilisé comme diurétique anti-rhumatismal, fébrifuge et sédatif, les fleurs de bleuet sont surtout actuellement utilisées pour les affections inflammatoires des yeux. Cependant, les autres usages internes connaissent un regain d'intérêt. Grâce aux amers qu'il contient, les tisanes de bleuet relancent une digestion ralentie. Une cuillère à soupe de fleurs infusée 10 minutes constitue une excellente tisane à consommer entre les repas. Pour favoriser les effets antinévralgiques et diurétiques, une décoction sera plus efficace. Pour cela, faites bouillir 5 minutes 20 g de fleurs par litre et laissez infuser 10 minutes avant d'en boire 2 à 3 tasses par jour, toujours entre les repas. Pour reposer les paupières, vous pouvez appliquer 10 minutes des compresses imbibées d'une infusion de 2 cuillères de fleurs refroidie, bien entendu, et pour raviver l'éclat du regard. Avec la même infusion, il est possible de baigner ses yeux pour soulager ses paupières. Cette préparation est bien utile en cas de conjonctivite, d'irritation ou de fatigue des yeux, en sachant que sa durée de conservation est très limitée et n'excède pas 24 heures. Vous pouvez aussi opter pour une eau florale de bleuet, achetée chez votre herboriste préféré, utilisée en compresse sur les paupières, ou même en bain de bouche pour les inflammations des muqueuses buccales. Vous l'aurez compris, nous gagnerons tous à retrouver cette jolie annuelle dans nos paysages et inspirer à nouveau peintres, auteurs et artistes. Pour terminer cette émission, je vous invite à écouter la séquence interview avec Marie Fortin, notre chroniqueuse hydrobiologiste, pour mieux comprendre le cycle de l'eau face aux événements climatiques récents engendrant tantôt inondations, tantôt sécheresses et canicules. Bonjour Marie, tu es hydrobiologiste et aussi chroniqueuse dans les pour les émissions des Plantes Vagabondes sur Radio G. Et aujourd'hui, nous allons une petite interview suite justement aux récents événements que nous avons eus, à savoir les inondations. Alors, je ne sais pas si on pourra les qualifier de crues centennales dans quelques années, mais en tout cas, elles ont quand même beaucoup marqué les habitants. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ? Quelles leçons on pourrait en tirer ?
Oui, bonjour Claudie. Alors effectivement, les inondations qui ont eu lieu du côté d'Angers au mois de février sont déjà qualifiées aujourd'hui hein, en termes de retour. On pense qu'on est à peu près sur une 50 malles pour la Loire et une malle pour la Maine et la Sarthe. Donc on est déjà effectivement sur des événements qui se veulent relativement exceptionnels malgré tout. Même si on a déjà vu des inondations de cette ampleur, en 95 par exemple à Angers, celles de 2026 n'ont pas dépassé en tout cas les hauteurs d'eau de 1995, mais elles restent sur des niveaux absolument exceptionnels.
Normalement, on a, j'ai envie de dire, mis en place des dispositifs depuis 1995. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur qu'est-ce qui a mieux fonctionné qu'en 1995 sur les territoires, notamment des basses vallées qui sont en amont d'Angers?
Je pense que à l'heure actuelle, on commence à avoir quand même une bonne connaissance du fonctionnement des cours d'eau et de l'évolution des débits des cours d'eau en fonction de la pluviométrie sur un bassin versant, donc la zone qui reçoit la totalité de la pluviométrie d'un secteur, et que le système d'alerte finalement et de suivi est extrêmement rigoureux. Les suivis de Vigicru permettent de connaître en temps réel le niveau de la rivière pour les élus, qui sont aussi un petit peu sur le front dans ces cas-là, mais aussi pour la population qui peut savoir où en est la côte de la rivière et adapter finalement les aménagements chez eux lorsqu'ils savent qu'ils sont en zone inondable. Et là-dessus, il me semble qu'il y a quand même eu un vrai progrès, notamment avec les services de l'État, de la Direction régionale de l'environnement et cette mise en place de Vigicru, avec des techniciens qui sont vraiment sur le pont 24h24 pour mettre à jour les données.
À ton avis, qu'est-ce qui aurait quelque part favoriser l'amplitude de ce phénomène de crue, en fait, et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, en fait, pour éviter ça, ces grands débats?
Il y a deux choses. Le premier, c'est un sujet global. Alors, si les crues, elles ont toujours eu lieu et qu'elles continueront à avoir lieu, on peut se poser quand même la question du retour de ces crues, et on sait qu'a priori, elles vont être parfois, les phénomènes, en tout cas extrêmes, peuvent être plus fréquents en lien avec le changement climatique, parce qu'on va avoir des sécheresses plus intenses et on va avoir des épisodes de pluie aussi plus intenses. Bon, ça, c'est un sujet plutôt mondial. Mais à l'échelle des territoires, il y a la question du zéro artificialisation nette et en tout cas de l'imperméabilisation des territoires qui peuvent favoriser le ruissellement et donc un accès assez rapide de l'eau vers la rivière et un gonflement de la rivière. Alors cette année, on n'a pas eu un gonflement très rapide, ce qui a permis de ne pas prendre la population et les élus au dépourvu, tant mieux, mais ça pourrait être autrement. Et pour ça, il faut absolument favoriser l'infiltration de l'eau sur les territoires. C'est déjà le rôle, finalement, des basses vallées angevines, de pouvoir permettre d'avoir une plaine d'inondation et de permettre à l'eau de s'infiltrer. Ensuite, si on regarde d'autres conséquences peut-être de ces inondations, il y a le côté quantité d'eau, effectivement, et les inondations qu'ont vécu la population. Mais on a pu aussi noter des dysfonctionnements, notamment avec l'évacuation des eaux usées et certains secteurs qui se sont retrouvés dépourvus de systèmes d'évacuation d'eau usée ou des égouts parfois qui se sont mis à déborder. Dans Angers, ça a été le cas. Alors, les pollutions derrière, elles sont relativement faibles, mais ça pose une question sur des secteurs précis de rejet d'eau usée qui sont les eaux sales de nos maisons. Quand on parle d'inondation, on a plutôt tendance à voir les conséquences la destruction des zones agricoles ou des maisons en lien avec l'eau qui va rentrer dans les maisons. Mais on a aussi des services techniques, des tuyaux finalement qui ne sont pas adaptés à ce type d'événement-là et la gestion de l'eau qui peut devenir problématique. On sait qu'au Poncé, par exemple, on a eu des difficultés à évacuer les eaux usées pour les habitants qui étaient touchés par les inondations.
Et alors, puisque nous sommes un peu plus tard par rapport aux inondations, moi, ce que j'observe, notamment dans les Basses-Vallées, c'est que les rivières sont retournées dans leur lit. Et étrangement, je les trouve d'un niveau très bas. Et comment expliquer simplement aux habitants que ce n'est pas parce qu'on a eu une inondation importante l'hiver qu'on n'aura pas de sécheresse l'été qui suit ?
Ah oui, alors ça c'est un sujet qui n'est pas facile à comprendre parce qu'on s'imagine souvent à tort que les nappes phréatiques ce sont des rivières souterraines qui se remplissent absolument aussi vite que les rivières superficielles et c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour pouvoir permettre une recharge des nappes phréatiques et c'est pas parce qu'on a des trombes d'eau à certains moments que l'eau rejoint la nappe phréatique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des inondations, c'est parce que cette eau-là, elle ne rejoint pas les couches profondes. Il faut du temps, il faut que ça percole. Pour certaines nappes phréatiques de notre secteur, comme c'est le cas de ce qu'on appelle la nappe du Cénomanien, il faut parfois plusieurs années pour permettre une reconstitution du niveau de la nappe qui soit satisfaisante finalement pour les usages. Donc non, c'est pas parce qu'on a de l'eau en grande quantité à un moment que c'est de l'eau qui remplit les nappes. C'est de l'eau qui remplit les rivières, et d'autant plus quand on a des secteurs qui sont très imperméabilisés, très urbanisés, où l'eau là ne rejoint pas du tout la nappe phréatique.
Bon, ben, ça va être peut-être le petit mot de la fin pour encourager les habitants, parce que nous, sur notre territoire, on a beaucoup de personnes qui ont des jardins, et donc oui. On a aussi des agriculteurs qui ont des champs qui pourraient avoir plus de haies ou des choses comme ça. Et donc, effectivement, peut-être que c'est aussi l'occasion de se dire... Et si je participais justement à cette alimentation de la nappe ?
Complètement, on a tous un rôle à jouer potentiellement, c'est-à-dire en favorisant vraiment le retour de l'eau au sol. Il y a des communes du Maine-et-Loire qui ont mis ça en place, par exemple le fait de déconnecter toutes les gouttières des maisons pour permettre à l'eau de rejoindre le sol et de s'infiltrer plutôt que de rejoindre un réseau d'eau pluviale. Et puis les agriculteurs ont aussi un rôle non négligeable à jouer en permettant à l'eau de se stocker dans les sols. C'est notamment la possibilité effectivement d'utiliser la végétation pour ça, mais aussi d'avoir des sols vivants. Et on note aujourd'hui, enfin les retours agronomiques disent que quand on a 1% de matière organique en plus dans les sols, on peut stocker, on peut permettre au sol de stocker jusqu'à une tonne d'eau par hectare. Et ça, c'est aussi dans l'intérêt de l'agriculture.
Donc, c'est bien d'avoir des défis pour le futur, alors.
Des défis, puis des solutions, surtout, oui. Parce que c'est vrai que c'est parfois, on est tous un peu subjugués par les événements de sécheresse, d'inondation, et on n'a pas envie d'être dans un climat anxiogène où on subit ce qui se passe, et des solutions, il y en existe.
Voilà, on va redevenir acteur.
On va redevenir acteur, tout à fait, Claudie.
Merci, Marie, pour cette interview.
Eh bien, merci Claudie pour la confiance accordée.
Cette émission est terminée. En guise de conclusion, je vous laisse savourer la citation de Henri Matisse. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Un bon programme pour cet été. Nous allons donc nous quitter et vous souhaitons un bel été en réécoutant sans limite podcast sur radio-g.fr. Prenez bien soin de vous et profitez bien de ce bel été et de ces floraisons. À très bientôt.